Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Les ONG qui interviennent en Syrie sont-elles les victimes collatérales des sanctions imposées au régime de Bachar al-Assad? En tout cas, elles subissent de plus en plus de contrôles financiers dans le cadre des lois antiterroristes de nombreux pays, comme l'a rappelé récemment dans l'émission le médecin humanitaire Raphaël Pitti, qui intervient régulièrement sur le front sanitaire dans le nord du pays. De fait, les associations d'aide à la population civile syrienne se retrouvent souvent bloquées dans leur action, comme le constate Joseph Daher, auteur d'un rapport pour le collectif d'ONG pour la Syrie, Oui Existe. En seconde partie d'émission, nous lirons la presse israélienne avec Michel Paul à Jérusalem. Sujet principal, les élections de mardi. Quant à Alexandre Boutchanti au Caire, il évoque pour nous la construction de la future nouvelle capitale de l'Égypte. Bonjour Joseph Daher.
Bonjour Éric Bataillon.
Vous animez le blog Syria Freedom Forever, la Syrie libre pour toujours en bon français. Alors quel type de difficultés avez-vous recensé dans votre rapport qui concerne donc ces ONG qui travaillent en faveur de la société civile syrienne ?
Les difficultés sont multiples et n'ont cessé d'augmenter en fait à travers les années. Tout d'abord, dans notre rapport, on regarde au niveau financier, ça commence à partir des premières étapes, on va dire. L'ouverture d'un compte en banque peut avoir une série de problèmes, une série de banques ont refusé l'ouverture de compte. Dernièrement, ce qu'on a vu également, c'est la fermeture de comptes en banque de plusieurs ONG syriennes dans plusieurs pays européens, notamment souvent sans aucune justification, poussant les ONG dans des conditions très compliquées de trouver des autres comptes en banque, mais ça devient très difficile vu qu'ils ont déjà été fermés par d'autres institutions. On y reviendra, il y a vraiment un problème structurel à ce niveau-là, mais sinon les problèmes ne s'arrêtent pas là. On a le problème de transactions financières bloquées pendant plusieurs semaines, des mois parfois, même parfois une année, ou tout simplement qui sont arrêtés, qui ne sont pas transférés, que ce soit par la banque qui émet ou bien par la banque correspondante, c'est-à-dire la banque qui fait l'intermédiaire entre deux banques qui n'ont pas de relations directes dans différents pays, et en particulier quand il s'agit de transactions directement vers la Syrie, le nombre de banques correspondantes, c'est-à-dire d'intermédiaires, n'a cessé de diminuer, donc rendant les choses encore plus difficiles. Les services de compliance, on va dire, des banques, les institutions financières n'ont cessé d'augmenter également, donc augmentant les problèmes pour les ONG à ce niveau-là.
Est-ce que pour les ONG syriennes, les défis juridiques sont plus difficiles à relever ? Vous parlez notamment de quotas, de personnel par exemple. Quels sont ces défis pour les ONG ?
Alors je dirais que les problèmes ont augmenté, hein, sans diminuer, je pense. Il ne faut pas minimiser les problèmes rencontrés par les ONG syriennes ou pas travaillant sur la Syrie en Europe, parce que on fait face à un certain nombre de problèmes qui n'ont pas augmenté. Mais c'est vrai qu'en Turquie et au Liban, la situation sécuritaire n'a pas été en faveur des organisations syriennes et aux travaillant sur la Syrie. On a pu voir également au Liban depuis 2015 une montée de la répression des ONG ou bien l'impossibilité pour elles de s'établir officiellement. Donc ça augmente un certain nombre de ces problèmes ou de respecter un certain nombre de quotas au niveau des employés. Et en Turquie, justement, c'est lié au développement vraiment après la tentative de coup d'État d'une fraction de l'armée turque contre Erdogan qui s'est suivie ensuite par une réaction autoritaire qui a aussi touché les ONG syriennes et plus particulièrement celles travaillant, comme je disais, dans le Nord-Est. Mais c'était également lié à une dite lutte contre le terrorisme. Et dans ce cadre-là, souvent, sous cet objet, on tape aussi également, on réprime également des acteurs démocratiques. Ensuite, il ne faut pas oublier que le Liban a fait face à, et ça a également touché les ONG syriennes, les énormes problèmes financiers, la crise financière depuis octobre 2019, avec le blocage par les banques libanaises des comptes, des capitaux. Donc, ce n'est plus possible de bouger. Les conséquences également économiques et financières sur la Syrie, parce que beaucoup de fonds sont bloqués dans les banques libanaises, et y compris pour des ONG syriennes ou bien travaillant sur la Syrie.
Joseph Daher, pour élargir un peu et sortir des pays limitrophes de la Syrie, est-ce que la simple mention du nom Syrie pour une ONG peut être la cause de ces difficultés ? Et si oui, est-ce que vous avez des exemples ?
Oui, très clairement. D'ailleurs, dans le cadre du rapport, on fait une interview avec un employé de banque qui nous dit très clairement, dès que la mention Syrie est faite dans une transaction financière, c'est le drapeau rouge qui est levé, c'est danger, et dès lors, il y a toute une série de compliances qui doivent être remplies. Et dans ce cas, je vous disais, par exemple, des ONG syriennes avaient pu faire face à ce genre de problème depuis déjà mi-2011. C'est le cas notamment d'une ONG syrienne basée à Manchester, Hand in Hand, qui a eu son compte fermé quelques mois après le début du déclenchement, à la suite des sanctions européennes sur la Syrie, la banque ne voulant pas avoir quel que soit n'importe quel risque avec une organisation qui avait déjà comme nom Syrie, qui l'a ensuite enlevé, mais et qui avait des activités en rapport avec la Syrie.
Et justement, est-ce que changer de nom et ne pas mentionner la Syrie suffit-il à contourner les problèmes ?
Non, pas du tout. Ça peut être au début ou dans certains cas, ça peut faciliter certaines transactions, certaines activités, mais dès qu'il y a une mention qui est faite pour un transfert dans une telle ou telle région, de nouveau, entre guillemets, le drapeau rouge se lève. Ou sinon, très souvent, ce qui se passe, c'est aussi que parfois, les compliance services des banques vont faire leur propre recherche sur la nature de l'organisation et vont parfois découvrir que ces organisations ont des activités en leur relation avec la Syrie, ce qui est arrivé dans ce qui m'a été dit d'ailleurs rapporté dans le cadre d'interview, dans le cadre du rapport, où c'est directement les compliance services des banques qui ont contacté ces organisations pour leur dire on a appris que vous avez des activités en Syrie, même humanitaire, cela nous pose un problème, il nous faut un certain nombre d'explications, de justifications pour permettre la continuation de vos activités financières dans le cadre de notre institution. Donc, non, c'est pas suffisant de simplement enlever à votre nom d'organisation le nom Syrie.
Joseph Daher, les levées de fonds sur les plateformes de financement participatif en ligne, est-ce que cela marche mieux ?
Non, pas forcément non plus. Il y a un certain nombre d'organisations, d'ailleurs également en France, qui ont vu leur volonté de justement lever des fonds sur des plateformes être fermée à la suite justement de mentions que cet argent pourrait partir en Syrie ou pour une région en Syrie, pour un hôpital en Syrie, etc. Il y a un certain nombre de cas, de noms que je ne sais pas si je peux citer à l'antenne, mais qui sont cités dans le rapport, qui met le doigt sur une série de ces plateformes qui ont fermé des comptes d'organisations syriennes ou pas, travaillant sur la Syrie, à cause de leur lien justement avec la Syrie.
Et hors le système bancaire classique, les fonds peuvent-ils être transférés par d'autres systèmes ? Je pense aux agences de type Western Union ou encore au système Hawala. Est-ce que cela fonctionne mieux ?
Alors oui, en l'occurrence, oui et non. Le système Hawala a été très utile, que ce soit pour les ONG, mais également des organisations internationales ou bien même des programmes financés par des États ou l'Union européenne pour transférer, par exemple, des pays limitrophes, Liban, Turquie, les fonds arrivant à une ONG, par exemple, dans ces pays et ensuite étant transférés à travers ce système des Hawala, d'intermédiaires financiers non officiels ou parfois officiels, ça dépend de s'ils sont enregistrés ou pas, pour financer un programme, pour payer des employés localement. Donc ça a été assez utile. Mais il y a des limites également. Il y a parfois le manque de transparence, parfois le fait que certains de ces hawala, particulièrement ceux enregistrés en Syrie, sont liés d'une manière ou d'une autre à des personnalités, businessmen proches du régime. De même qu'il y a des personnes qui ont émis des peurs d'aller par exemple à des systèmes, à un centre de hawala dans une région, alors par exemple sous contrôle du régime, et peut-être que ça sera lié, mais également dans les zones non contrôlées par le régime, il y a eu des peurs que parfois certaines de ces institutions de Hawala soient liées à des groupes armés, etc. Donc il y a un certain nombre de problèmes de transparence, de la garantie d'y arriver, parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes aussi. Parfois l'argent n'y arrivait pas. Leur coût reste quand même relativement minime, malgré qu'ils augmentent dans des régions qui sont difficiles d'accès. Donc il y a des aspects positifs, et ça a été un des systèmes beaucoup utilisés pendant un certain temps. Alors maintenant, depuis la Turquie jusqu'à la Syrie, cela passe plutôt par des banques nationales officielles turques, notamment des banques de la Poste, parce que dans je parle des régions sous contrôle de la Turquie. Donc ils ont le transfert d'argent de la Turquie à la Syrie se passe à travers ces canaux, on va dire, plus institutionnels bancaires turcs, mais même au sein de la Syrie, d'une région à l'autre, l'usage des hawala est fait. Concernant Western Union, le problème, c'est aussi le contrôle du régime sur ces institutions est assez important depuis 2011. Et ensuite, il y a des coûts assez importants pour les transferts d'argent à travers ce type de structure. De même, de nouveau encore, la peur parfois d'aller et que des services de sécurité soient présents et voient que vous recevez de l'argent de l'étranger. Parce que, juste pour donner une information, aujourd'hui, les montants quotidiens envoyés de l'étranger à la Syrie, bon, ça c'était avant Covid, élevé à peu près 4 millions de dollars, donc à peu près 2 milliards de dollars états-uniens par année. Donc c'est des sommes assez importantes et avec la crise économique que vit la Syrie, c'est absolument nécessaire pour un certain nombre de groupes, d'individus, de populations, c'est-à-dire la majorité de la population, de recevoir ces fonds étrangers. Donc oui, et le seul problème que je rajoute avec Western Union, ce genre d'institut, c'est que le régime a tendance parfois à les fermer, notamment lors de crises de dépréciation de livres. Dernièrement, encore une fois, ça a été fermé. Je crois que c'était début juin quand la livre syrienne a atteint 3000 livres syriennes pour 1 dollar. Juste pour rappel, avant 2011, c'était 50 livres syriennes pour 1 dollar. Début janvier, il y a de nouveau eu fermeture de certaines agences Western Union. Donc il y a aussi une incertitude à ce niveau-là qu'il ne faut pas négliger.
Et quelles conséquences toutes ces difficultés ont sur l'activité des organisations et surtout sur les personnels sur le terrain? Vous avez, semble-t-il, identifié trois problèmes principaux.
Oui, tout à fait. Alors, il y a un problème tout d'abord, comme j'en ai mentionné, sur les transactions financières, la possibilité de les faire, l'importation de produits particuliers, de machines pour certaines ONG. Ça, c'est particulièrement pour les ONG, les INGO se trouvant en Syrie. Et l'achat de certains services comme tout ce qui est de l'ordre de la télécommunication ou de l'essence. Mais surtout, un des problèmes principaux, c'est que l'activité de ces ONG peut être arrêtée ou certains programmes peuvent être arrêtés à cause de ces dites sanctions invisibles, l'arrêt de ne pas pouvoir recevoir son argent, ou bien le report de certains programmes de plusieurs mois, ou l'attribution de parts importantes de donations financières qui devraient normalement aller pour l'aide humanitaire vers tout ce qui est compliance pour pouvoir répondre à ces problèmes. De même que ça va parfois pousser certaines ONG de ne pas étendre leurs programmes par peur justement de faire face à ce problème de compliance. Donc on voit que ça a une vraie conséquence sur le terrain. Et juste sur cette note, je pense que c'est important de dire que là on parle du cas de la Syrie, mais on a d'autres cas à travers le monde où des ONG subissent des problèmes similaires dans des pays en guerre, que ce soit les pays, par exemple, les territoires occupés palestiniens, l'Afghanistan, la Somalie et d'autres, ils subissent les mêmes genres de problèmes.
Joseph Daher, enseignant à la Faculté des sciences sociales et politiques de l'Université de Lausanne, en Suisse, auteur d'un rapport sur les sanctions invisibles dont sont victimes les ONG qui interviennent en Syrie.
Orient Hebdo sur RFI.
Nous allons maintenant au Caire et à Jérusalem où nous attendent Alexandre Bouchanti et Michel Paul. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Bonjour Michel.
Bonjour.
À la une de la presse israélienne, Michel Paul, l'analyse du résultat des élections de mardi dernier. Michel, la formation du gouvernement sera-t-elle aisée cette fois ?
Mission quasi impossible, il faut bien le dire, Eric. Rendez-vous pour une cinquième élection, titre Haaretz dans son édition du week-end, avec la publication des résultats définitifs. Le portail Ynet, qui appartient au groupe Yedioth Aharonot, pose lui la question, va-t-on vers une nouvelle consultation ? Et 87% des lecteurs répondent par l'affirmative. Alors en théorie, une petite formation, le parti arabe Ram, issu du mouvement islamique en Israël, pourrait donner une courte majorité parlementaire à l'un ou à l'autre des deux blocs politiques, les partisans de Benjamin Netanyahou, ou alors ceux en faveur du changement. Et plusieurs scénarios sont envisagés. Mais l'extrême droite a déjà opposé un veto à cette option. Alors concrètement, les commentateurs estiment que le Premier ministre sortant va œuvrer pour obtenir le soutien de transfuges politiques. Cela lui permettrait dans un premier temps de former un gouvernement minoritaire. Mariv nomme Netanyahou l'architecte de ce fiasco. Et pour Yedioth Aharonot, une majorité d'Israéliens a dit non à Bibi. Pour Israël Hayom, le journal proche du pouvoir en Israël, Netanyahou guette la moindre erreur de ses adversaires.
Michel, peut-on déjà prédire quelle sera la plateforme politique de la nouvelle coalition ?
Il est probablement trop tôt, Eric, pour parler de programme politique, d'une nouvelle coalition, mais on peut parler des tendances. Alors, une Knesset entachée, c'est le titre de l'éditorial de Haaretz qui s'en prend aux nouveaux députés, disciples du rabbin Kahana, qui viennent d'être élus au sein de l'extrême droite. Un parti obscurantiste, fondamentaliste, raciste et homophobe, souligne le quotidien d'opposition, qui ajoute qu'il ne faut pas laisser passer ce phénomène sous silence. Et puis de l'autre côté de l'échiquier politique, on trouve ce projet qui réunit plusieurs partis, et le quotidien Marive le nomme la loi anti-Netanyahou, qui interdirait à tout député mis en examen de former une coalition.
En bref, Michel, les autres sujets que vous avez relevés dans les médias en Israël cette semaine?
L'ancien espion Jonathan Pollard parle pour la première fois. 35 ans après son arrestation, il raconte toutes les péripéties depuis son recrutement et jusqu'à son arrivée en Israël. Dans les journaux également, une nouvelle attaque de missiles contre un cargo israélien. Israël accuse à nouveau l'Iran. Et en titre aussi, une nouvelle crise avec la Jordanie. Cette fois, elle porte sur des questions d'eau. Et puis aussi, Eric, la crise du coronavirus qui disparaît des premières pages des journaux avec le retour d'une quasi-normalité.
Et pour conclure, Michel Paul, votre photo?
Cette fois, il s'agit d'une caricature. Les candidats politiques avec Netanyahou en tête qui courent sur un stade. Continuez, leur dit-on. Ce n'est pas la dernière ligne droite.
Merci, Michel. Alexandre, avec vous, nous évoquons un sujet récurrent dans la presse égyptienne, la construction de la nouvelle capitale. Quand précisément son inauguration aura-t-elle lieu?
Oui, elle aurait dû avoir lieu courant 2020, mais elle a été reportée, alors officiellement à cause du coronavirus, qui a ralenti les travaux. Toutefois, les experts indépendants estiment que le retard était inéluctable pour des raisons techniques et économiques. Techniquement, les infrastructures ne pouvaient pas être prêtes. L'approvisionnement en eau à partir du Nil situé à 60 km, la centrale électrique de 4800 MW ainsi que le complexe administratif qui doit accueillir dans un premier temps 50 000 fonctionnaires et les logements nécessaires. Plus important encore, ce sont les transports publics qui doivent permettre aux Kérodes de se rendre à la nouvelle capitale. Un train électrique et un monorail qui ne sont pas encore terminés. L'autre raison est économique. On manque d'argent frais pour payer les constructeurs. Il faut donc réduire la voilure et augmenter la durée des travaux. Selon le président Abdel Fattah el-Sissi, l'inauguration devrait avoir lieu en grande pompe fin 2021 ou début 2022.
Alexandre, il s'agit, sans jeu de mots, d'un projet pharaonique.
Oui, tous les records sont battus. Le coût prévu est de l'ordre de la cinquantaine de milliards d'euros, presque la moitié du budget annuel de l'Égypte. Record de superficie pour une capitale avec près de 700 km², soit 7 fois Paris intramuros. Record d'Afrique de hauteur avec une tour de 383 mètres. Le modèle urbanistique confié à une société américaine se rapproche de celui de Dubaï dans les Émirats. Des Émirats qui, du fait de leur participation financière, ont vu l'avenue principale de la ville baptisée Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Mais il ne faut pas oublier les Chinois qui sont probablement les plus grands bailleurs de fonds, mais aussi les maîtres d'œuvre des ouvrages de prestige.
Toutefois, certains critiquent un projet jugé mégalomane.
Oui, d'où le nom de Sissi City qu'ils ont attribué à la nouvelle capitale. Le premier problème est celui du coût faramineux qui a drainé une bonne partie des capacités de développement égyptiennes et du financement opaque. Autre critique, la nouvelle capitale est conçue pour les riches, comme le prouvent tous les projets immobiliers avec immeubles de luxe et villas. Ils voient mal comment la nouvelle capitale pourrait désengorger le Caire et accueillir 7 millions d'habitants en 2040. Mais d'autres nouvelles villes égyptiennes jugées improbables au XXe siècle ont fini par être des succès, rétorquent les partisans du projet.
Merci Alexandre. Orient Hebdo, une émission de RFI réalisée par Mathias Golshani, que vous pouvez réécouter sur le site de la radio www.rfi.fr ou en podcast sur notre application Pure Radio. Demain, nous évoquerons la chute du président algérien Abdelaziz Bouteflika en 2019 avec le journaliste Benoît Chaumont, auteur d'un documentaire diffusé demain soir sur la chaîne de télévision publique France 5. À demain donc, dans un instant, le journal.